Cette dame est anthropologue, c'est Mme Marie-Pierre Bousquet, qui est directrice du programme en études autochtones à l'Université de Montréal et s'est penchée justement sur toute cette question des pensionnats. Et qu'en est-il du Québec en comparaison avec le reste du pays? Parce que présentement, le drame qui nous apparaît et qui sort de la virtualité parce que l'on trouve des sépultures non identifiées fait en sorte que ça s'est passé dans l'Ouest. Mais en même temps, on entend parler que ce sont des communautés religieuses du Québec qui ont été faire le travail d'acculturation, si on peut dire, auprès des peuples autochtones. Bonjour, Mme Bousquet.
Bonjour.
Dites-moi... Cette réalité remonte à longtemps. Il y a longtemps que l'on savait, depuis la commission de vérité et réconciliation, mais là, ça nous saute au visage, évidemment, parce qu'il y a des preuves matérielles, on retrouve des sépultures. Ça a commencé comment, toute cette affaire, et pourquoi on est arrivé à vouloir enlever des peuples autochtones leur réalité et leurs racines?
Alors, on va remonter, en fait, au début du 19e siècle où on fait la paix avec le voisin américain. Et là, on commence à se dire qu'on n'a plus besoin de nos alliés autochtones. Et c'est vraiment toute l'entreprise de l'unification du pays qui va commencer. Et à ce moment-là, on va se dire qu'il faut absolument « civiliser », entre guillemets, c'est le terme qui est employé, les autochtones. Et on se rend compte, en fait, que les différentes tentatives qui sont essayées fonctionnent pas très bien. Et il y a une commission au milieu du 19e siècle, la commission Bagot, qui va suggérer que le mieux est de séparer les enfants des parents, les adultes étant considérés comme irrécupérables, et qu'en les séparant, ces enfants, on va pouvoir donc les instruire et les faire devenir des petits Canadiens et leur enlever leur culture, pas justement que les manières des parents continue, et à ce moment-là, qu'on puisse s'approprier également les territoires pour unir le pays. Alors, c'est comme ça a commencé.
Pourtant, ce Canada, d'aujourd'hui, en tout cas, se présente comme multiculturel, mais là, il fallait carrément enlever les peuples autochtones de la mosaïque canadienne. C'était l'objectif du conquérant, du gouvernement, qui, soit dit en passant, est d'abord un gouvernement anglophone d'une majorité à l'Ouest.
Alors, il y a quand même eu quelques francophones importants. Hein. On pense à Wilfrid Laurier, c'était un francophone. Et quand il était premier ministre, en tout cas, il n'a pas du tout changé la politique des pensionnats. Il l'a continué. C'était même une politique répressive. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait aussi des députés, des ministres qui étaient québécois au Parlement fédéral.
Donc, les décideurs sont autant d'origine francophone et québécoise que on peut dire que McDonald était à l'origine de tout cela, puis de toute l'affaire de l'Ouest avec Louis Riel, etc. Là. On est dans cette époque, on est dans ce magma-là. Là.
Oui. La ligne du parti de McDonald était, c'est vrai que c'est McDonald qui en prend la responsabilité, mais sa ligne de parti était largement suivie par tout son... Tous les députés et tous ces ministres. Alors, c'est pas uniquement lui qui pensait ça. Il était, tout le monde suivait la même façon de voir. Et c'était une façon de voir qui était également partagée dans la société, puisque dans les documents des missionnaires qui ont participé, qui faisaient d'ailleurs parfois pression sur le gouvernement, l'idée qui va devenir vraiment les maîtres mots de la politique des pensionnats, c'est civiliser, christianiser et éduquer. On ne peut pas penser, en fait, à créer des citoyens canadiens s'ils ne sont pas également chrétiens. Donc, c'est vraiment une vue qui paraît évidente à tout le monde au 19e.
Oui, tout à fait. Dites-moi, et pourquoi les mandataires de ce travail d'annihilation des cultures autochtones et des Premières Nations passent par les religieux et religieuses francophones catholiques?
Alors en fait, 57% des pensionnats autochtones du Canada ont été dirigés par des catholiques, donc il n'y a pas que, même s'ils ont une grosse responsabilité, mais ce sont les catholiques qui se sont les congrégations en général se considéraient comme des protecteurs des autochtones, et ils faisaient vraiment pression pour que ce soit eux qui s'occupent des autochtones. Je pense que d'un certain côté, le gouvernement fédéral, ça l'arrangeait beaucoup parce que c'est quand même une administration qui était assez lourde. Et donc, il s'est complètement déchargé sur les congrégations catholiques, mais également d'autres. Il y avait aussi des anglicans, l'Église unie, les Moraves, etc.
Est-ce que le Québec a échappé à ce type d'institution? Parce qu'on en parle moins. C'est comme si on avait oblitéré tout ça. On avait oublié qu'il y en a eu peut-être ici. Et peut-être qu'on trouvera aussi de ces sépultures chez nous, non?
En fait, on a déjà commencé à trouver des sépultures ici. Il y a eu 12 pensionnats qui sont reconnus officiellement, parce qu'il faut savoir que, en fait, il y a une définition juridique des pensionnats autochtones. Donc, il y a des écoles qui ne sont pas reconnues comme pensionnats. Les écoles qu'on reconnaît comme telles, c'est des écoles qui correspondent à l'article 12 de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Et il y a 12 institutions qui correspondent à cette définition au Québec. Et pour notamment le pensionnat de Fort George, les Iyush, donc les Cris qui sont à côté, ont déjà balisé l'endroit où, parce qu'on sait de toute façon, et on le sait par les archives, qu'il y a des enfants qui sont morts à Fort George, et Fort George, c'est au Québec.
C'est assez rare que nous ayons tendance à nous considérer comme des oppresseurs, alors que dans ce pays, la francophonie se considère comme une minorité dont les droits ne sont pas respectés à travers l'histoire. Et c'est encore un débat aujourd'hui, peut-être plus moderne, mais politique, de ces minorités francophones qui ne voient pas leurs droits respectés. Comment on définit l'oppresseur dans cela? Est-ce que c'est réduit aux communautés religieuses qui s'étaient donné une mission de convertir et de protéger, entre guillemets, ces populations-là, ou s'il y avait un mouvement connu, reconnu, su de la part du monde politique québécois?
Alors, c'est une question qui est assez difficile, parce qu'il faut à ce moment-là essayer de voir la différence entre la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité, si on voit ça d'une façon collective, on peut penser à l'ensemble de la société, en tout cas les autorités en général, et donc les autorités religieuses en font partie. Et c'est vrai que c'est difficile de se sentir à la fois oppresseur et opprimé, et on ne peut pas nier, parce que ça fait partie de la réalité de l'histoire, que les droits des francophones ont été largement opprimés au Canada. Mais ça ne veut pas du tout, c'est pas incompatible malheureusement avec le fait d'être aussi oppresseur. Souvent, ce qu'on sort, c'est le procès de bonnes intentions. Oui, mais ils avaient des bonnes intentions. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, même s'il y a beaucoup de congrégations, notamment, si vous regardez dans l'Ouest, en fait, quand on a découvert la fosse commune à Kamloops, faut pas oublier que la congrégation féminine qui s'occupait de Kamloops, c'était des francophones, et la congrégation masculine qui s'occupait des garçons, c'était des francophones aussi. À l'origine, c'était une congrégation qui venait de la Chine. Dans l'autre cas, un autre pensionnat dont on a parlé récemment, la congrégation venait de Saint-Hyacinthe. Donc, quand on parle de l'Ouest, on a une large part des francophones. C'est une responsabilité, c'est toute une mentalité coloniale dont on a hérité et dont on ne sait pas toujours quoi faire, parce qu'on se sent mal de se dire qu'en tant que francophone, cette mentalité a aussi été partagée par les francophones et que malheureusement, nous aussi, on en hérite dans notre héritage collectif et dans notre histoire collective. Mais c'est très dur parce que ça remet en question un mythe profond dans l'histoire du Québec.
Et tout ça découle, ou en tout cas fait partie du sillon de la loi sur les Indiens. Parce que c'est ça qui venait oblitérer, donner raison à tout geste pour faire de ces Autochtones des Canadiens, arrêter qu'ils soient des peuples premiers nations.
Oui, mais la loi sur les Indiens, c'est une refonte de loi qui existait avant. Donc elle n'est pas sortie de terre pouf comme ça en 1876 et largement amendée plein de fois depuis. D'ailleurs, elle existe toujours. Hein.
Oui, oui.
Et elle a toujours pas changé de nom. Mais c'est une loi qui est une refonte de lois précédentes. Et c'est des lois qui ont commencé. Si vous en faites l'histoire, vous remontez à la Nouvelle-France. D'ailleurs, il y avait aussi des pensionnats en Nouvelle-France. Donc malheureusement, là, même si on veut faire commencer ça à la loi sur les Indiens, ça marche pas parce que cette loi aussi, elle a une histoire et cette histoire, elle remonte avant. Donc, en fait, le projet colonial a toujours été présent. C'est ça qui est... Alors, s'il y a eu des alliances, s'il y a eu des choses comme ça, oui, il y en a eu, mais c'est peut-être aussi en fonction des circonstances historiques, mais le projet a toujours été de faire des Autochtones des sujets du roi. Alors, lequel, ça, c'est une autre affaire.
Ouais.
Mais le sujet des rois de France au départ et le sujet du roi d'Angleterre, ce projet, vous pouvez pas le faire naître comme ça au 19e. Et c'est l'aboutissement de conditions historiques.
Ah, dernière question. Comme anthropologue, est-ce que vous diriez que tout colonialisme, tout impérialisme porte en lui une volonté d'assimiler les gens ou voire même de les acculturer?
J'aurais du mal à répondre autrement parce que oui, l'impérialisme à la base, c'est vraiment d'essayer de changer l'autre aussi. Donc ça fait partie du projet. Toute société est ethnocentriste. Toute société pense qu'elle fonctionne mieux et qu'elle est meilleure que les autres. Mais le projet impérialiste démultiplie cet ethnocentrisme et donne à penser que le colonisateur est celui qui a raison, est celui qui a les meilleures manières, est celui qui a les meilleures façons de penser et il a les moyens de les imposer. Donc c'est ça, le projet colonial est un projet d'imposition de soi-même aux autres. Et c'est ça qui fait que c'est... oui, c'est difficile à porter parce que à un moment donné, on en a les restes.
Des excuses, c'est quelque chose, mais réparation, c'est difficile à faire quand l'histoire a ce poids-là.
Alors, les excuses, c'est le minimum vital, mais ça apporte pas grand-chose parce que ça reste quand même au niveau symbolique. Alors, c'est nécessaire, mais si on s'arrête là, on n'a rien fait. Ça suffit pas de mettre les drapeaux en berne, de pleurer devant les caméras et présenter ses excuses. Il faut faire quelque chose. Et la difficulté actuellement, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire au 21e siècle quand on hérite de tout ça, quand on voit les dommages épouvantables que ça a créé dans les communautés autochtones, chez les autochtones en général, comment on peut réparer? Et là, on n'a pas de réponse, mais je dirais que la première étape, c'est déjà de s'éduquer, d'apprendre, de combattre l'ignorance sur l'histoire des pensionnats. Puis après, on va essayer de voir si on peut pas faire mieux et avoir une meilleure relation avec les peuples autochtones. Mais là, on est au début, là.
Merci beaucoup, justement, d'avoir participé à cette éducation populaire pour nous et avec nous. Merci bien, madame.
Merci beaucoup.